avec vous un message auquel j'ai réfléchi depuis quelque temps déjà sur les larmes en fait, parce que il y a larmes et larmes, il y a tristesse et tristesse, il y a de bonnes larmes, il y a de moins bonnes larmes, et nous verrons assez succinctement par quelques textes choisis des exemples de la Bible. Ma méditation a commencé quand je suis en train de lire le livre des Nombres. J'ai lu ce passage de Nombres 11, verset 4. Je vous le propose. Nombres 11, verset 4 à 9. Nombres 11, verset 4. Lisons ensemble. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi, c'est plus fort qu'eux, c'est violent hein, cette expression, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Alors, jusqu'au verset 6, c'est leur expérience. Et puis, à partir du verset 7, il y a une description qui est quand même différente de cette plainte. Nous le lisons. « La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. » C'était bon donc. « Quand la rosée descendait la nuit sur le champ, c'était la bénédiction, la manne, il descendait aussi. » Amen. Un miracle matinal et quotidien. Tous les matins, Dieu bénissait son peuple en donnant le meilleur des gâteaux au miel. Alléluia. Et c'est curieux ce passage, la première partie, elle est désagréable. C'est des murmures, c'est des plaintes. Et la seconde partie est différente. Comme quoi, il y a notre regard, ou le regard de la chair, le regard de l'homme, puis il y a le regard de Dieu. Il y a ce que Dieu dit de ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est bon. La manne était excellente. Et il se lassait de ce miracle. Et la Bible dit qu'en cette occasion, ils recommencèrent à pleurer. Recommencèrent. Donc ce n'est pas la première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. Alors il y a larmes et larmes. J'ai intitulé ces larmes, les larmes du mécontentement, les larmes de l'apitoiement sur soi. Et il faut que nous fassions attention quand nous pleurons. Est-ce que ce sont de bonnes larmes ou de mauvaises larmes? Il y a des larmes qui donnent l'expression d'un mécontentement. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu me conduis là? Pourquoi tu permets cette épreuve? Pourquoi ce désert? Pourquoi cette difficulté? Et puis, quelque part, le mécontentement même des choses que Dieu donne. Seigneur, ta parole, est-ce que ta parole, elle est fade? Je voudrais autre chose que ta parole. Mécontentement, il recommence alors qu'il vivait la grâce de Dieu. Je crois que la manne, c'est Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Amen. Et en réalité, nous aussi, nous pouvons quelque part ne plus avoir le bon goût de notre Sauveur. Et il faut certainement alors demander la grâce de Dieu. Donc les premières larmes, c'est les larmes de l'apitoiement sur soi. Il faut que nous fassions attention parce que entre repentance et apitoiement sur soi, des fois, ça se ressemble très fort, mais c'est pourtant tout à fait différent. Alors, deuxième larme, les larmes de Bokim, Juges, chapitre 2, versets 1 à 5. Juges, chapitre 2, versets 1 à 5. les larmes de Bokim. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. » Donc là, ce qui est dit, c'est Dieu a fait sa part. Dieu a accompli sa promesse. « J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Je pense que bien souvent, des fois, si le Seigneur nous parlait, il pourrait nous dire « Mais pourquoi ?» Et on se retrouverait un peu bête. Hein. Alors, « J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui se passe. C'est curieux. Ce passage de Bokim. Ils pleurent, bien, ils réagissent, oui, mais ils ne changent pas. Alors, je vous dis ce que la Bible a noté sur ce verset, justement, pleurs stériles. Alors, on peut les intituler, ces larmes, les larmes de la stérilité. Pleurs stériles, arrachées par la crainte du châtiment, plutôt que par une véritable repentance. Car celle-ci aurait produit une énergique résolution dont l'histoire n'offre aucune trace. Et c'est vrai qu'après Bokim, ça ne s'est pas amélioré, ça ne s'est pas arrangé. Et en réalité, c'est le départ de 300 ans de judicature avec bien des hauts et surtout des bas. Les larmes de la stérilité. Je crois qu'il faut que nous fassions tous attention. C'est que parfois, quand on est touché et qu'on pleure, on ne s'en rend pas compte, hein. Mais on se dit, ça y est. Mais non. La repentance, c'est de changer. Et que de fois, dans nos vies, c'est comme Jacques qui dit, celui qui entend la parole, qui découvre son visage. Donc, il y a une réaction, il y a une réalité spirituelle. Il découvre son visage. C'est un frère, une sœur qui a un cœur droit, qui a cette honnêteté de se découvrir dans la parole, mais qui s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Et c'est vrai que quand le Seigneur nous touche, bon, avec larmes ou sans larmes, quand le Seigneur nous touche, on peut penser que c'est bon. Mais non, en fait. C'est bon si ça nous change, si ça apporte quelque chose. Les larmes de Bokim. Lisons le psaume 56, verset 9, s'il vous plaît. Là, ici, ce sont de bonnes larmes. Comme je le disais en introduction, il y a de mauvaises, mais il y a aussi de bonnes larmes dans la parole de Dieu. Psaume 56, verset 9. Voilà ce qui est dit. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Psaume 56, verset 9. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Amen. J'ai intitulé ces larmes, les larmes de la persécution. David est persécuté. Il est à Gath. Il a été pris. Et il est en proie à la persécution. Et là, il pleure, il crie. Et l'Écriture dit que ces larmes-là, elles ont une grande valeur, puisqu'elles sont recueillies dans une outre, et même elles sont comptabilisées, inscrites dans un livre. Alléluia! Il y a des larmes qui comptent. Il y a des larmes qui ne se perdent pas. Nous, parfois, quand on pleure et qu'on est en difficulté, on a parfois l'impression que Dieu nous oublie, que nos larmes tombent à terre. Elles ne tombent pas à terre. Elles sont recueillies dans une gourde, dans une outre. l'outre de Dieu. Alléluia. Il n'est pas vain de pleurer dans le Seigneur. Il n'est pas vain de pleurer pour le Seigneur. Il n'est pas vain de pleurer pour son œuvre, parce que toutes ses larmes sont comptées et recueillies. Alléluia. Et peut-être que dans la gloire, alors ne prenez pas au pied de la lettre, peut-être que quand on sera reçu dans la gloire, le Seigneur nous donnera une bonne gourde. Elle dira, tiens, ça c'est ta gourde. C'est la gourde de tes larmes. Je te donne la couronne avec la gourde. Alléluia. Ce sont les larmes de la persécution. Écoutez, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Pierre dit, ne trouvez pas étrange de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Ne trouvez pas ça étrange, c'est pas anormal. C'est pas anormal qu'un chrétien pleure à cause de la persécution. Ça a au contraire une grande valeur et ce n'est pas pour rien. Voyons maintenant les larmes et Jésus. Matthieu chapitre 8, verset 12. Matthieu chapitre 8, verset 12. Matthieu 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus et les larmes, Jésus a parlé 6 fois dans l'évangile selon Matthieu des larmes de l'enfer. 6 fois cette expression « où il y aura des pleurs et des grincements de dents » revient dans l'évangile selon Matthieu. 6 fois, c'est assez rare que dans un livre biblique et notamment surtout dans un évangile, il y a 6 reprises une même expression. Il y a maintenant un certain temps, j'ai lu un excellent livre d'un Américain qui a eu le mérite de se distinguer de tous les autres ouvrages écrits sur l'enfer parce qu'il disait qu'en fait, qui a parlé le plus de l'enfer? Premièrement, c'est Jésus. Et à qui s'adressait-il au sujet de l'enfer? À ceux qui le suivaient. Et je crois que ce sont les pires larmes, les larmes de la perdition. Que Dieu nous sauve et nous garde. Et nous préférons pleurer des larmes de la repentance maintenant pour n'avoir jamais à avoir les larmes de la perdition. Pleurons maintenant pour ne pas pleurer demain. Amen. Les larmes, les pleurs et les grincements de dents. Jean 11, verset 35, on le connaît bien, mais allons-y ensemble. Hein, ici, le sujet, c'est Jésus et les larmes. Donc, il a parlé des larmes de l'enfer et il a pleuré lui-même. Jean 11, 35, c'est le plus petit verset de la Bible, paraît-il. Il est dit, Jésus pleura, pleura. Alors, sur quoi les Juifs disaient? Mais c'est ce que les Juifs disaient. C'est parce qu'il aimait Lazare et Marie. Il l'aimait. Donc, si Jésus a pleuré, c'est pas mauvais de pleurer, puisque le maître a pleuré. Il y a des mauvaises larmes, mais il y a des bonnes larmes. Et puis, il y a des larmes profondes. Parce que, avec plusieurs commentateurs, je partage cette opinion que non, Jésus n'a pas seulement pleuré parce que Lazare venait de mourir. Parce qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Quand il est devant le tombeau, il dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux qui l'entouraient. » Donc, il savait très bien que Lazare ne resterait pas mort. Il est même resté volontairement quelque temps, alors qu'il était malade, afin que justement, il meure pour que la gloire de Dieu éclate par sa résurrection. Donc, il n'a pas pleuré comme vous et moi, on peut pleurer parce qu'il n'y a pas de solution à la mort. Il l'avait. Mais beaucoup pensent qu'il a pleuré en voyant tous ces gens pleurer la mort, parce qu'il a pleuré à cause de ce désastre du péché qui fait mourir les hommes. Jésus a pleuré parce qu'il est venu sur cette terre de misère, sur cette terre où il y a la maladie, la mort, l'angoisse, le malheur. À cause du péché, Jésus a paru pour détruire le péché et détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, il a pleuré mais ses larmes étaient lourdes de sens. Il a pleuré à cause du péché et il a lutté jusqu'au sang. Il n'a pas que pleuré, il a saigné pour remporter la victoire sur le péché. Alléluia. Il faudrait que nos larmes aient la profondeur de celles de Jésus. Parfois, nous pleurons pour des choses légitimes, mais que le Seigneur peut-être nous amène à pleurer sur la perdition des âmes, sur le péché autour de nous, et pas seulement sur des choses qui nous concernent, mais sur le monde qui nous entoure, sur l'Église. Et puis, on va pas lire parce que le temps avance. Quand il est allé à la croix, il a refusé les larmes superficielles. Il s'est retourné vers les pleureuses. Il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Parce que ces femmes, elles pleuraient pour Jésus. Oh, il va mourir. Mais non, il va pas mourir. Il va ressusciter. Mais non, c'est pas lui qui est maudit. C'est elles, si elles ne se repentent pas, elles seront perdues. Alors Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, pleurez sur Jérusalem, parce que moi je vais mourir, mais je ressusciterai, tandis que Jérusalem en l'an 70, Titus, va tout raser, parce que vous m'avez rejeté. En fait, actuellement, vous pensez que c'est moi qui souffre et qui vais à la croix, mais c'est vous qui êtes en danger. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Ah, je pense que parfois, même quand autour de nous, les gens pensent que nous, chrétiens, nous sommes humiliés, nous sommes abandonnés. Non, nous sommes sauvés. Mais eux, ils sont perdus. Qu'ils pleurent sur eux. Amen. Et nous, nous ne pleurerons pas forcément sur nous. Il faut réussir ça. C'est admirable. Ces temps-ci, je pense beaucoup à cela. Souffrir la croix comme Jésus l'a souffert, écoutez, il est le Seigneur. On est très loin de lui. Comment il a enduré la croix? Comment il a refusé de pleurer sur lui? 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11, c'est mon avant-dernier texte, un texte bien connu qui parle de cela. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8. 2 Corinthiens 7, verset 8. 2 Corinthiens 7, verset 8. C'est sur la tristesse bonne, selon Dieu, et la mauvaise, selon le monde. 2 Corinthiens 7. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a fait du mal, quelque part vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Pas le temps ce soir, c'était une affaire qui s'était passée à Corinthe, dont Paul était mêlé, les Corinthiens, il a demandé aux Corinthiens de faire certaines choses et ils ont été touchés, ils ont compris, ils ont fait, et voilà. Et ici, dans ce passage, c'est surtout l'idée, bonne tristesse selon Dieu, mauvaise tristesse selon le monde. La tristesse, selon Dieu, nous amène à la repentance. Alors, un petit conseil, si vous êtes triste des fois, mais que ça vous décourage, que ça vous abat, que ça vous fait du mal, c'est une tristesse selon le monde. Par contre, si vous êtes triste, mais d'une tristesse qui vous rapproche de Dieu, une tristesse qui vous fait réfléchir et réformer vos voies, alors ne soyez pas trop vite heureux. Restez comme cela. Bonne ou mauvaise tristesse. Que personne ne soit triste à la mort, mais que nous soyons tous tristes à la repentance. On termine avec Apocalypse 21, verset 4. On le sait bien sur les larmes. Apocalypse 21, verset 4, et après peut-être deux ou trois pourraient terminer la réunion par la prière, si vous n'aviez pas eu l'occasion tout à l'heure. Apocalypse 21, verset 4, il est dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses, ce qu'on est en train de vivre, ont disparu. » Alléluia. La promesse d'une consolation éternelle. Il l'essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est le nouveau monde, la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel, la nouvelle terre. C'est l'état final, glorieux, éternel, qui nous est réservé à tous. Dieu soit béni.